Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à vous. Vous êtes peut-être sur la chaîne Tech & Co sur les box opérateurs, peut-être aussi sur notre chaîne YouTube ou bien sur l'appli RMC BFM Play. En tous les cas, sachez-le, comme chaque lundi soir, c'est votre rendez-vous dédié à la tech. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Avec, en ce lundi, au sommaire de ce Tech Hebdo, eh bien, Twitter, avec une épée de Damoclès sur la tête. Hein. Peut-être que Twitter serait interdit en Europe. On en parle dans un instant avec Luc Chagnon. Et puis, imaginez un casque avec un bon son, au design à peu près, on va dire, traditionnel, mais surtout avec un potentiel de durabilité important, eh bien, c'est le nouveau Fairphone, on en parle dans quelques instants. Et puis Raphaël Grabli viendra nous parler du nouveau Pixel A, on l'a testé et visiblement, on est emballé. Voilà, merci d'être avec nous, c'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Un grand merci d'être avec nous. Comme vous le savez, chaque lundi, c'est Tech Hebdo. Vous pouvez nous retrouver, je le disais aussi, sur l'appli RMC BFM Play. Et en ce lundi, on commence tout de suite avec l'actu de cette semaine, une actu chargée. Et pour faire un point justement sur toute l'actu de ce début de semaine, c'est avec Luc Chagnon. Bonjour Luc.
Bonjour François.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Merci d'être là Luc. Alors, pas mal de choses à évoquer, hein. On va parler dans un instant de OpenAI, mais aussi de Neuralink, mais pour débuter, Twitter qui fait l'actualité depuis le début du week-end. Alors voilà, il y a pas mal de menaces, à la fois de Thierry Breton, mais aussi de notre ministre du numérique, comme quoi Twitter pourrait, d'ici la fin de l'été, peut-être être interdit. Est-ce que c'est sérieux tout ça ?
Non, c'est un nouveau coup d'éclat d'Elon Musk, on va dire, de nos propriétaires de Twitter, qui s'est retiré la semaine dernière du code de bonne pratique de l'Union européenne en matière de désinformation. Donc c'était un texte qui avait été signé en 2018 entre pas mal de plateformes, donc Facebook, Meta, les plus grosses plateformes, TikTok aussi, mais aussi des entreprises dans le domaine de la publicité et des fact-checkers, donc l'objectif était d'éviter que ces grosses plateformes participent à répandre des fake news, de la désinformation sur Internet, et donc que les plateformes qui répandent ce genre de désinformation voient leur recette publicitaire, on va dire, réduite, pour désinciter les plateformes à répandre ce genre de fausses informations. Et Twitter s'est justement retiré de ça.
Oui.
Donc c'est effectivement de ce point-là que part en fait toutes les polémiques, les récentes déclarations en matière d'interdiction, de potentielle interdiction de Twitter dans l'Union européenne.
Mais alors pourquoi, première question Luc, pourquoi Twitter se retire en fait de ce code en quelque sorte ?
Il n'y a pas eu de déclaration officielle de Twitter en la matière, c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui l'a annoncé sur Twitter, donc il n'y a pas eu de
communication de la part de Twitter.
Communication formelle de la part de Twitter sur le sujet.
Alors qu'Elon Musk communique sur tout et n'importe quoi, il n'a rien dit là-dessus.
Effectivement, là pour une fois, il n'a rien dit, mais en fait, on peut comprendre que ça s'insère dans la logique d'Elon Musk au plus général en matière des informations, de gestion des plateformes, parce qu'il répète à l'envi qu'il veut faire de Twitter une plateforme de liberté en matière d'information. Il a complètement changé la fonction des badges de vérification sur Twitter, qui a fait que maintenant ils peuvent être utilisés par n'importe qui, y compris pour amplifier la diffusion des informations. Donc on voit que ce n'est pas le souci principal d'Elon Musk en la matière. Et en fait, le fait est que même s'il se retire de ce pacte-là qui était volontaire, Twitter reste malgré tout soumis à des obligations. Il n'est pas complètement, extrait du domaine légal, en particulier en Europe, vu que à partir de la fin août, du 25 août, il y a de nouvelles dispositions qui rentrent en vigueur. C'est ce qu'a expliqué Thierry Breton, et c'est de là que viennent l'ensemble des avertissements.
Bien sûr. Et les menaces, parce que le tweet de Thierry Breton était assez violent quand même. Hein.
Il a tout simplement rappelé en fait ce qui s'appliquait à Twitter, et qu'en fait, à partir de fin août, il y a de nouvelles obligations qui vont s'appliquer à de très grandes plateformes, y compris Twitter, dans le cadre du Digital Services Act. Et parmi elles, l'obligation pour les plateformes de mettre en place en fait des moyens supplémentaires pour lutter contre la désinformation, d'analyser les risques que les plateformes auto-analysent les risques en fait qu'elles présentent en matière d'information, de leur diffusion, les mesures qu'elles pourraient mettre en place. Il n'y a pas de mesures obligatoires qui sont évoquées, il y a des suggestions, donc augmenter les forces de modération, il y a plein de possibilités. Mais si jamais l'Europe juge que les plateformes ne font pas assez en la matière, elles peuvent, elles peuvent imposer des amendes à ces plateformes et éventuellement, ça peut aller jusqu'à l'interdiction tout pure et simple dans le marché commun. C'est ce que rappelait justement Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, ce matin.
Et alors, je vous lis le tweet de Thierry Breton parce que moi, je l'ai trouvé assez costaud quand même, puisqu'il nous dit « Twitter quitte donc le code de conduite volontaire de l'UE contre la désinformation, mais les obligations demeurent. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. »
Ça fait film d'horreur, presque.
C'est ça. « Et au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale sous DSA. » Donc, c'est ce que tu expliques à l'instant, dès le 25 août. « Nos équipes seront prêtes pour l'exécution.
» L'exécution des mesures.
Bien sûr, mais malgré tout, c'est une menace à peine caché, quoi. En
oui, on sent, il y a une approche assez, pas forcément confrontationnelle, mais directe, on va dire, que pour tout simplement, j'imagine, correspondre à Elon Musk, qui lui-même prend assez peu de gants quand il s'exprime sur ces questions-là.
Oui, il faut lui parler avec le langage qu'il connaît, en fait.
Et déjà, dès la confirmation du rachat Twitter par Elon Musk, Thierry Breton avait dit « l'oiseau volera selon nos règles », pour parler de l'oiseau bleu de Twitter. Voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau, effectivement, et la bagarre, on va dire, continue à voir, effectivement, dans quelle mesure ces amendes seront appliquées, à partir de quand, combien de récidives seront considérés comme justifiant une interdiction pure et simple, effectivement, ça reste à voir.
Bon, on verra bien ce qui se passera. C'est le 27 août, je crois. Hein.
25 ou 27.
Ou le 25, ou 25 dans ces eaux-là. Fin août. Voilà. Écoutez, ça va être la rentrée aussi pour Twitter. Une rentrée qui risque d'être un petit peu mouvementée, mais peut-être que d'ici là, Elon Musk
se
pliera aux exigences de l'Union européenne, ce qui serait quand même une bonne solution, et pour nous tous d'ailleurs, hein, parce que si demain on ne peut plus utiliser Twitter, ça serait quand même un peu embêtant. Dans l'actu, on reste quand même aussi dans cette régulation européenne qui est très puissante, on le voit, hein, et après Twitter, c'est OpenAI, vous le savez, OpenAI qui est la boîte qui a créé ChatGPT, dirigée par Sam Altman, qui a fait une tournée européenne la semaine dernière, et qui, sent qu'il y a une pression européenne quand même, hein, très forte là aussi, concernant ChatGPT.
C'est ça, oui, il était en tournée. Alors, il a fait les Amériques il y a deux semaines, et là, la semaine dernière, il était en Europe, pour tout un tas de conférences, de présentations, d'entretiens aussi avec les différents dirigeants européens, que ce soit en Pologne, en Espagne ou en France avec Emmanuel Macron. Et lors de son étape à Londres, c'était le 24 mai, il me semble, il s'est exprimé, il était interrogé notamment sur la régulation à venir en matière d'intelligence artificielle, parce que ça attire beaucoup l'attention, ces nouvelles applications, y compris chez les régulateurs. Et Sam Altman plus ou moins laissé entendre, même explicitement dit, en fait, que OpenAI pourrait retirer ses services d'Europe si jamais il n'arrivait pas à appliquer les réglementations européennes. Les réglementations européennes en la matière. Donc, il s'est justifié en disant que il y a des limites techniquement à ce qui est possible. Bon, ça, on peut l'entendre, mais il n'a pas dit clairement qu'est-ce qui était du domaine du faisable et qu'est-ce qui n'était pas, quoi.
Oui. Donc, première réaction, on va dire un peu épidermique. On peut pas faire ce qu'on veut, on retire ChatGPT.
Effectivement, dit clairement.
Et puis après, il met un peu d'eau dans son vin en disant c'est pas ce qu'on veut, etc., etc.
C'est ça.
C'est pas nouveau. Hein. Souvent, on a comme ça. Des menaces de la part des géants américains qui se sentent un petit peu, on va dire, malmenés par la régulation. Alors, ça peut être en Europe, mais on se souvient aussi en Australie, on avait eu une histoire à peu près similaire avec Google. Google qui avait menacé de quitter l'Australie si il ne pouvait pas, enfin je sais plus quoi.
C'était une question de rémunération, des sites d'information pour les faire figurer dans Google News. Il devait financer en partie les sites et Google n'était pas d'accord.
Voilà, et puis finalement tout le monde s'est mis d'accord et Google évidemment n'a pas été interdit en Australie. Dans l'actualité aussi, on se rapproche vraiment des films de science-fiction. Avec Neuralink, on revient donc à Elon Musk, puisque vous le savez, Neuralink appartient à Elon Musk. C'est une société qui réfléchit à installer des implants dans le cerveau, alors aujourd'hui dans des animaux, mais demain sur des humains, pour en fait régler certains problèmes de santé, des paralysies, des choses comme ça, etc., etc. Et ces derniers jours, il s'est passé quelque chose de très important.
Effectivement, nouvelle avancée, on va dire, dans le petit éclaircie aussi dans le domaine des entreprises possédées par Elon Musk pour compenser Twitter, on va dire. Effectivement, Neuralink a été, donc l'entreprise Neuralink a dit qu'elle avait été autorisée par la FDA, donc c'est l'agence des médicaments américains, l'agence sanitaire américaine, pour commencer à faire des tests de ces implants cérébraux sur des humains. Parce que jusqu'ici, comme tu l'as dit, c'était essentiellement sur des animaux, donc des singes, des cochons, des choses comme ça. Et là, ce serait une nouvelle étape justement pour tester le dispositif et arriver à arriver à régler les différents problèmes que qu'Elon Musk prétend pouvoir régler avec cette technologie, parce qu'il y a beaucoup de pas forcément de promesses, mais de, en tout cas Elon Musk laisse entendre que à terme ça permettra de régler beaucoup de choses, que ce soit des troubles, des maladies cognitives comme Alzheimer ou Parkinson, mais aussi des troubles plus généraux comme l'obésité, l'autisme, voilà des choses extrêmement larges. Pour l'instant, les équipes techniques, on va dire, de Neuralink se contentent de dire que ça va permettre de communiquer avec des machines, notamment pour des personnes paralysées qui ne pourraient pas taper sur un clavier.
Donc c'est-à-dire que simplement, en se concentrant sur, par exemple, un clavier ou sur un écran, ils pourraient écrire, peut-être, et échanger avec la machine, simplement parce que voilà, ce capteur qui fait la taille d'une pièce de 1 euro, je crois, serait inséré dans le cerveau. Alors, voilà, ça fait un peu peur comme ça, mais effectivement, ça ne fait pas peur à Elon Musk et à ses équipes.
D'autant plus que, enfin, pour le moment, voilà, le recrutement n'est pas encore ouvert. C'est un recrutement volontaire, bien sûr, et il n'est pas encore ouvert.
Oui.
Mais voilà, donc il y a beaucoup de... Reste à voir effectivement comment tous ces problèmes seront résolus, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'explication sur la manière dont ce dispositif pourra régler tout ça. Et on rappelle aussi que, à voir effectivement comment le recrutement volontaire va se passer, puisque Neuralink fait aussi l'objet de deux enquêtes, notamment pour maltraitance animale, oui. Pour les différents animaux sur lesquels le dispositif a été testé, un certain nombre sont morts. Voilà. Et il y a aussi une enquête en matière de traitement des déchets potentiellement contaminés, puisque ces implants, il faut bien en faire quelque chose une fois retirés des animaux. Et ils ont été déplacés apparemment pas en conformité aux normes, notamment en matière des maladies qui auraient pu se trouver dessus. Donc effectivement, à voir ce que Neuralink pourra faire.
Voilà, encore un coup d'éclat signé Elon Musk. Merci beaucoup, Luc, pour toute cette actualité.
Merci,
Luc Chagnon, de la rédaction de Tech & Co. Donc, alors, j'imagine que tu écoutes beaucoup de musique, forcément, hein, peut-être dans les transports ou sur un vélo. Est-ce que tu as testé le nouveau casque de Fairphone, Luc ?
Alors non, je n'ai pas eu l'occasion.
Eh bien, on va en parler dans un instant avec mon invité. Agnès Crépé, qui est responsable longévité logicielle et informatique pour Fairphone, nous rejoint en visio. Vous connaissez sans doute la société Fairphone qui a révolutionné, est en train de révolutionner le smartphone, on va dire avec une éthique et une durée de vie plus longue que les produits que l'on connaît, et puis une réparabilité aussi à toute épreuve. Eh bien, Fairphone annonce un casque qui s'appelle tout simplement le Fairbuds XL, et on va en parler avec Agnès Crépé qui est avec nous en visio. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable longévité logicielle et informatique pour Fairphone. Je le disais, voilà, hein, vous êtes toujours dans cette logique de faire des produits qui vont durer longtemps, qui sont réparables, etc., avec des tutos pour qu'on puisse soi-même mettre à jour les produits, mais aussi les réparer. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce casque, donc, cette nouveauté ?
Oui, donc, vous l'avez très bien dit, Fairphone, on est connu pour faire des téléphones qui durent. Et là, on attaque un nouveau produit, donc on attaque le marché des casques audio. Et donc, la spécificité de ce casque que j'ai ici, d'ailleurs, j'espère que vous le voyez, c'est qu'il est réparable. Donc, finalement, pas forcément de grosses différences par rapport à un autre casque audio, en tout cas techniquement parlant. La grosse différence, c'est que comme nos téléphones, vous allez pouvoir, chez vous, le réparer facilement. On sait très bien qu'il y a des pièces qui s'usent très vite. Les batteries, le cerceau, les coussinets, ce genre de choses. Eh bien, vous pouvez changer ces choses-là au bout d'un certain temps si ces pièces sont usées. Voilà la grosse spécificité de ce téléphone et de ce casque audio, pardon.
Alors, il faut savoir que selon vos données, 548 millions de casques ont été vendus en 2021. Rien que 2021, 548 millions. Une infime partie était recyclée ou bien entièrement modulaire. En fait, ils ne sont pas faits pour ça, les casques. Hein. Aujourd'hui, quand un casque ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on le prend et on le met à la poubelle. Et évidemment, c'est une hérésie écologique, on est d'accord ?
On est bien d'accord, et souvent à cause d'une petite pièce, par exemple l'arceau qui a cassé, ou parfois à cause de la batterie qui est usée, donc on ne parle même pas d'une pièce cassée. Et tout ça, ça résulte en une quantité astronomique de déchets électroniques. Donc on parle de 54 millions de tonnes hein, de déchets électroniques qui sont produits chaque année, c'est énorme, et parmi ces 54 millions, le petit électronique, donc les casques audio sont considérés dans la catégorie petit électronique, on est à 19 millions. Donc c'est énorme et effectivement, les appareils électroniques comme les casques audio, comme les téléphones, ne sont pas faits pour être réparés ni durés.
Alors là, la particularité de ce Fairbuds, c'est que de nombreuses pièces sont remplaçables par nous-mêmes, parce que vous livrez avec un petit tournevis qui nous permet de démonter le casque en fait.
Alors ça, on faisait avec le téléphone. Là, sur le casque, vous n'avez même pas besoin, en fait, parce que beaucoup de choses sont changeables sans tomber. C'est encore plus simple, un peu comme ce qu'on avait fait avec le Fairphone 2. Et bah, typiquement, la batterie, ce genre de choses, et même le câble qui relie les deux haut-parleurs. Donc, on est sur vraiment une réparabilité. Je dis souvent, moi, je dis souvent, ma vieille tante qui habite en Haute-Loire, bah, ma vieille tante de 85 ans qui habite en Haute-Loire peut réparer son casque audio. C'est toute l'ambition de Fairphone. On n'a pas besoin d'être technicienne, technicien pour arriver à réparer soi-même son appareil.
Alors, le fait qu'il soit réparable ne doit pas mettre, on va dire, de côté ses qualités techniques. Et ce n'est pas un casque au rabais. Voilà, la partie technique a été soignée. Vous avez mis quoi ? Ce qu'on doit avoir aujourd'hui dans un casque audio haut de gamme, c'est considéré comme du haut de gamme, ce casque ?
Oui, tout à fait. Donc, on s'est rapproché déjà d'un constructeur qui s'appelle Onsen. On a travaillé aussi avec une société SonarWorks qui est assez connue dans tout ce qui est calibrage audio. Et oui, on est sur un casque qui est haut de gamme avec voilà, tout ce qu'il y a de meilleur pour une très bonne qualité audio. Le gros challenge, c'était de le rendre modulaire. C'était d'arriver à faire tout ça en essayant de garder le fait que vous puissiez le réparer. Mais la qualité audio est là. On a eu beaucoup de revues depuis sa sortie, hein, donc il y a très récente, depuis 15 jours. Hein, des grosses revues, Forbes, Guardian, ont fait des avis très positifs sur le casque. Donc, on est très contents et on espère toucher en fait, un marché un petit peu différent. Aujourd'hui, on est sur le téléphone. Les gens, pour changer leur téléphone,
mais c'est plus compliqué.
C'est un peu plus dur que pour changer un casque. Voilà, c'est ça. Donc, on espère justement par le casque arriver à toucher un public un peu différent, parce que toute l'ambition de Fairphone, c'est de changer les électronique, de changer l'industrie électronique pour la rendre plus responsable et plus éthique en respectant à la fois la planète mais aussi les gens qui fabriquent les appareils électroniques.
Donc autonomie de 30 heures, réduction de bruit actif, connexion multipoint, il est compatible à PTX HD, ce qui permet d'avoir un son de meilleure qualité si
le
smartphone est compatible. Port USB-C, il est même certifié IP54, hein, donc il résiste à la pluie, c'est ça ?
Oui, à la poussière, à la pluie, à la sueur. D'accord. Donc ça, c'est un gros challenge hein, pour justement un casque qui se veut modulaire, parce que pour avoir une résistance à l'eau et garder de la modularité, c'est justement des choses qui a été très, très compliquées chez nous, mais qu'on a réussi à faire.
Voilà. Son prix, Agnès ?
On est à 249 euros. D'accord. Donc on est sur un prix de marché pour ce genre de casque. Mais bon, sur du long terme, forcément, ce sera potentiellement moins cher que ses compétiteurs.
Merci beaucoup Agnès Crépé, responsable longévité logicielle et informatique pour Fairphone avec donc ce nouveau casque plutôt séduisant à tester bien évidemment. Et vous restez avec nous puisqu'on parle de test. Tout de suite, c'est Raphaël Grabli qui va nous parler justement d'un appareil qui va pouvoir sans doute se connecter facilement avec ce casque Fairphone. Il s'agit du Pixel 7a. Et le produit de la semaine dans Tech Hebdo, c'est le nouveau Pixel 7a, le meilleur de la technologie à un prix très intéressant. C'est toujours alléchant et ça tombe bien puisque Raphaël Grabli, de la rédaction de Tech & Co, l'a testé, ce Pixel 7a. Salut Raphaël.
Salut François.
Ravi de te retrouver dans Tech Hebdo. Alors voilà, je le disais, c'est vrai que sur le papier, séduisant. Pixel fait toujours, et on le sait, toi et moi, depuis de nombreuses années, d'excellents téléphones avec un module photo travaillé, etc., avec les algorithmes de Google. Ce Pixel 7a qui vient de sortir, alors, est-ce que c'est une bonne surprise ?
Bah, c'est, alors, ce n'est pas tellement une surprise, finalement, mais en tout cas, c'est un super smartphone, c'est vrai. Déjà, on adore les Pixels depuis le début, enfin, depuis le 3, si je ne dis pas de bêtises, qui est arrivé en France en premier. Et puis après, les gammes A qui sortent en général durant l'été, qui sont des gammes qui ont démarré autour des 400 euros, mais qui gardent en fait la partie logicielle de Google, c'est-à-dire les algorithmes absolument phénoménaux en photo. Et donc oui, le Pixel 7a, c'est un très très bon cru. Alors en photo, en fait, pour être très sincère, d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est qu'il change même les capteurs, les Pixel 7 et les 7 Pro. On avait, si je ne dis pas de bêtises, du 50 mégapixels. Là, on a
sorti
carrément
l'année dernière, à la fin de l'année dernière.
Exactement. Hein. En fait, les gammes principales, entre guillemets, ça sort maintenant. Bah,
oui, fin d'année.
Juste après Apple. Et puis ensuite, on a les 7A, enfin la gamme A qui arrive avant l'été. Et donc là, on a carrément un capteur principal 64 mégapixels. Alors, On donne le nombre de mégapixels, on sait très bien, toi et moi, que le nombre de mégapixels, ça veut rien dire.
Mais c'est pas ça qui fait forcément la belle qualité
des photos. Sauf si vraiment tu veux imprimer tes photos, les agrandir, pourquoi pas. Quand c'est pour les regarder sur un smartphone et les mettre sur Insta, ça ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, c'est que les pixels avec 12 mégapixels étaient les meilleurs smartphones en photo face à des smartphones avec du, je ne sais pas combien, 64, voire parfois, je crois, 128 mégapixels. Donc, mais bon, ils sont quand même passés à 64 mégapixels, avec une techno qui permet aussi d'ailleurs de combiner les pixels entre eux. Mmh. Et non, le résultat, il est à la hauteur. En fait, que ce soit avec le capteur grand-angle classique, donc avec l'autre capteur qui est un ultra grand-angle ou avec le capteur principal, la photo est juste parfaite et elle est juste au niveau des meilleurs smartphones en photo. On rappelle quand même, ce Pixel 7a, il est à 509 €. Ouais. C'est un peu plus cher.
Un peu plus cher que les précédentes versions
de Pixel. Exactement, 50 € de plus en gros que le 6a qui a été sorti l'été 2022.
On peut dire que bon, l'inflation étant passée par là, peut-être aussi une surenchère des...
Oui. C'est une fâcheuse tendance chez tout le monde, hein. D'ailleurs pas que chez Google, hein. Chez Apple aussi, beaucoup augmenté ses prix. Donc c'est vrai que maintenant, c'est 500 €. Mais si je fais un récap, en gros, bon, le design, il est très... Il est assez élégant. Alors, à l'arrière, c'est du plastique, mais ça imite quand même plutôt bien le métal. On a les traces de doigts aussi au passage.
Mais c'est là où ils économisent un petit peu d'argent.
Oui, c'est sur les...
C'est pas trop sur les finitions, non, c'est sur les matériaux.
Exactement. Si ce n'est quand même qu'on a cette fameuse bande qui est vraiment métallique à l'arrière. Donc, c'est assez joli. Et on le voit d'ailleurs à l'image, ce qui différencie aussi, et c'est là où ça permet d'économiser de l'argent, c'est les bandes noires autour de l'écran. Ah oui. L'écran n'est pas aussi resserré, enfin, je veux dire, c'est pas aussi optimisé.
Oui, parce que c'est ce qui coûte cher, en fait. Hein, avoir des bordures très, très fines, ça coûte beaucoup plus cher et c'est réservé, en général, aux smartphones très haut de gamme.
Exactement. Et donc là, ça permet d'avoir probablement des matériaux un peu moins chers. Je trouve que c'est assez acceptable compte tenu du prix. En plus, le processeur, il faut le dire, c'est quand même le même que celui des Pixel 7 et 7 Pro, c'est la puce G2 de Google. Mmh. Alors, dans les performances, c'est un tout petit peu moins bien, c'est peut-être un petit peu bridé. Non, le vrai point négatif de ce Pixel, mais comme un peu tous les Pixels, c'est l'autonomie qui est quand même pas incroyable. Voilà. L'autonomie est assez limitée. Donc, si vraiment vous allez vous balader toute la journée avec un smartphone, soit vous prenez une batterie portable, soit bon, ça va être plus compliqué si vous travaillez à votre bureau tous les jours et que vous avez une vie assez classique. À ce moment-là, c'est pas un gros problème, mais il faut quand même le dire, il se recharge pas très vite et l'autonomie, elle est pas phénoménale. Après, il est assez compact, hein, c'est un 6,1 pouces, écran OLED, donc voilà, tout ça,
très bien
calibré.
90 Hz d'affichage.
90 Hz, pas du 120 comme le 7 Pro, mais du 90 comme le 7.
Qui apporte de la fluidité.
Exactement, 90 Hz, on sent la différence. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est vraiment pas anecdotique, le 90 Hz. On sent une petite différence. Mais encore une fois, pour 500 €, moi, je trouve qu'on a tout simplement un des smartphones les meilleurs en photo du marché. Donc, c'est quand même assez remarquable. En plus, on a l'interface Google qui est quand même assez épurée. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est si on regarde le marché... en face, il y a quoi ? Bon, il y a le Galaxy A54 de Samsung, qui est un très bon smartphone, qui est un très bon téléphone, mais enfin, qui en autonomie n'est pas phénoménal non plus, donc il ne va pas se rattraper là-dessus. Et en photo, il est bien, mais le Pixel est quand même largement mieux. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance quand même à recommander.
Oui, si on a un budget de 500 €, pourquoi pas ?
Moi, c'est même plus que pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas.
Très sincèrement, moi,
pourquoi pas foncer ?
Non, mais honnêtement, moi, c'est le smartphone. Après, moi, je suis un immense fan des Pixels parce qu'ils n'ont jamais été décevants. L'autonomie, ce serait bien que ça progresse quand même enfin, ce serait bien. Mais non, c'est même pas pourquoi pas. Pour moi, c'est un gros...
Voilà, c'est un incontournable
un
de ce milieu d'année 2023.
Aller, c'est clair.
Raphaël, dernier point qui est très important aussi quand on parle de ces téléphones, c'est la longévité.
Ouais.
On va dire logiciel, etc. Et là encore, Google avec le Pixel coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un téléphone Android qui va avoir sans doute l'une des plus grandes durées de vie de l'univers Android, en fait.
Oui, alors d'après mes souvenirs, c'était 3 ans de mise à jour. Je me demande s'ils n'étaient pas passés à 4. Là, tu me poses une petite colle parce que j'ai un petit doute là-dessus, justement. Mais disons, ouais, je te laisse regarder en temps réel, mais en général, par rapport à du Samsung, Google, qui évidemment est derrière Android, ça permet d'avoir au moins 1 an de mise à jour en plus, peut-être même 2, il faudra vérifier. Donc, on n'est pas loin, on va dire, de ce que peut proposer Apple, voire Fairphone d'ailleurs, hein, que tu vas voir par la suite. Mm-hmm. Mais on va dire que c'est des bons élèves, Google. A priori, c'est un smartphone qu'on va pouvoir garder au moins 3 ans. De toute façon, voilà, 3 ans, c'est déjà une durée qui me semble acceptable pour un smartphone à 500 euros. Mais comme tu le dis, on aura des mises à jour. Et c'est surtout, moi, il y a un autre élément que je trouve important d'un point de vue logiciel, c'est le fait de pouvoir profiter d'Android assez rapidement.
Jusqu'à Android 16.
Android 16, d'accord. Voilà. Donc, c'est 3 ans.
Et là donc, on parle d'Android, du soft, mais après, il y a toutes les mises à jour de sécurité qu'il y aura.
Alors là, les mises à jour de sécurité, c'est plus long. Mais donc, là, il y a Android 14 qui va arriver.
Et donc, il devrait avoir des correctifs de sécurité mensuels jusqu'en mai 2028, au moins.
Oui.
Et on est en 2023. Donc, oui, il y a 5 ans de mise à jour sécurité, de sécurité.
De sécurité. Ce n'est pas la mise à jour d'Android.
Non. C'est pas le...
Mais Android, on est sur 3 ans. Par exemple, Apple, c'est 6 ans. Ouais, et Fairphone, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4-5 ans. Donc, c'est pas mal. Mm-hmm. Allez, encore un petit effort. Mais comme tu le dis, c'est évidemment très important. D'autant plus qu'avec un processeur comme ça, avec une qualité photo comme ça, avec des finitions comme ça, on peut s'imaginer que ça tienne la route quand même sur 3 ans. Donc oui, tu as raison. 500 euros sur 3 ans, pour peu qu'on aille choper une petite promo quelque part. Franchement, ouais, non, vraiment, c'est un très bon cru.
On peut tester en plus des innovations Google en avant-première.
Oui, c'est ça. Et puis le fameux Android qui a été présenté, enfin la nouvelle version d'Android en général, on l'a directement et on n'a pas à attendre. Alors même si honnêtement les nouveautés d'Android 14,
il n'y a
pas grand chose. Mais enfin voilà, en tout cas on a les mises à jour en premier.
Voilà, c'est le Pixel 7a qui est bien à les suffrages de la rédaction de.
Et le test évidemment.
De Tech & Co.
À retrouver sur Tech & Co.
Bien sûr, le test à retrouver donc sur le site de Tech & Co. Tu as raison. Merci beaucoup Raphaël.
Merci François.
Et ce Tech & Bono est terminé. Et évidemment, on a été très heureux de passer cette petite demi-heure en votre compagnie. On sera là bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver tous nos programmes, à la fois sur les box, mais aussi sur la chaîne YouTube et sur l'appli RMC BFM Play. Portez-vous bien et à très vite.